Le débat du jour. Loïc Bussière.
L'histoire contemporaine comptait déjà dans ses pages le New Deal américain des années 30. Elle pourrait bien, dans les mois qui viennent, y ajouter celle du No Deal made in London. Ici, pas de nouvelle donne, mais bien une absence d'accord entre, d'un côté, le Royaume-Uni qui a claqué la porte de l'Union européenne, de l'autre, Bruxelles, pas vraiment disposée à lui signer son bon de sortie, les yeux fermés. 2 ans que les urnes ont rendu leur verdict et validé le Brexit. 2 ans que les débats animent les deux rives du Channel sans que les deux camps ne parviennent à parler d'une même voix. Oui, mais voilà, l'horloge tourne, avec en ligne de mire la date du 29 mars 2019, date à laquelle la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sera effective. Dès lors, ce n'est plus la question du Brexit or not Brexit qui se pose, mais bien celle de l'après, celle des relations à venir entre les deux parties, celle d'un possible Brexit sans accord pour les circonscrire, option qui pourrait être fatale à une Theresa May déjà fragilisée dans son propre camp. On en parle ce soir avec nos invités. Nos invités Jérôme Krill et Emmanuel Saunier-Cassia. Bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel Saunier-Cassia, vous êtes professeur de droit public à l'université Versailles-Saint-Quentin, Paris-Saclay. Vous êtes actuellement en train de travailler sur un ouvrage à paraître sur le Brexit. Peut-on espérer le lire avant le 29 mars prochain ?
J'en doute au regard des rebondissements que nous avons à subir chaque mois, depuis 2 ans.
C'est un livre, mais une saga. Donc, Jérôme Krill, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, directeur du département des études à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Vous êtes, vous, auteur du livre déjà paru, que l'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies, L'économie européenne aux éditions La Découverte. Je le disais en préambule, cela fait plus de 2 ans que l'Union européenne a dit oui au Brexit. Pourtant, plus l'échéance s'approche, plus on a l'impression que les incertitudes concernant l'avenir des relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sont fortes. Jérôme Krill, je m'adresse à vous.
Alors, je pense que cette situation était anticipable, dans la mesure où la décision de sortir du Royaume-Uni n'était peut-être pas la décision qui avait été anticipée au Royaume-Uni lorsque le vote a eu lieu, que dès lors, il a fallu s'interroger sur la pertinence de ce vote et sur le fait de savoir si oui ou non il fallait lui donner une légitimité que les urnes étaient supposées lui avoir accordée. Alors, du fait de cette surprise-là pour les Britanniques, il me semble pas du tout surprenant qu'ils mettent un peu de temps à réagir et à avoir un projet qui tienne la route une bonne fois pour toutes. En réalité, ce qu'ils recherchent, c'est à être, comme ils l'ont été jusque-là, des acteurs de l'Union européenne sans en avoir toutes les contraintes. Or, de l'autre côté, évidemment, confronté au fait qu'on soit avec un pays qui décide de sortir pour la première fois de notre histoire, mais il est important que l'Union européenne démontre qu'elle est unie et qu'elle refuse d'accorder un certain nombre d'avantages au Royaume-Uni. Donc cette situation, elle était prévisible de toute façon dans le fait que le déclenchement effectif du Brexit a mis beaucoup de temps, puisqu'il a fallu presque ou un an même, si je me souviens bien, pour qu'il soit effectivement déclenché. Et on est aujourd'hui dans des négociations âpres. On a vu aujourd'hui l'Union européenne affirmer qu'elle préparait une capacité juridique à réagir extrêmement rapidement en cas de no deal, donc préparant le no deal.
Mais ces négociations, elles durent. Emmanuel Saunier-Cassia, est-ce que les pro-Brexit qui l'ont emporté, contre toute attente, on peut le dire, il y a 2 ans, est-ce qu'ils faisaient montre d'une forme d'impréparation? Est-ce qu'il n'y avait finalement pas autre chose à proposer que la simple sortie de l'Union européenne et qu'ils ne se sont pas posé la question du « et après » ?
C'est très juste. Ils étaient complètement impréparés. Tous, d'ailleurs. Le UKIP, qui est finalement à l'origine de tout ce processus et qui a fait une sorte de chantage aux urnes et qui a conduit Monsieur Cameron à finalement devoir proposer un référendum, n'était pas plus préparé, parce que c'était juste son slogan de bataille et d'existence, n'était pas plus préparé que Monsieur Cameron, qui a dû proposer ce référendum, qui a montré une impréparation totale dans les débats à la Chambre des communes qui ont précédé dès le référendum, tout ce tout comme ceux qui ont suivi avec Monsieur David Davis, qui n'est plus aujourd'hui au gouvernement, mais qui a montré audition après audition une impréparation totale avec des promesses de rapport qui ne venaient jamais, tout simplement parce qu'ils n'avaient jamais été écrits. Donc oui, impréparation, vous avez sacrément raison.
Alors David Davis, c'était justement le ministre en charge du Brexit qui a quitté le navire, qui a quitté le gouvernement de Theresa May au mois de juillet dernier, précisément parce qu'il était en désaccord avec les propositions de la première ministre britannique et de sa façon de voir l'après-Brexit, Jérôme Creel.
En fait, le Parti conservateur est en ce moment scindé en deux, enfin depuis de nombreuses années, entre ceux qui sont favorables à ce hard Brexit, une séparation forte de l'Union vis-à-vis de l'Union européenne qui impliquerait de ne plus financer le budget de l'Union européenne, de bénéficier d'une libéralisation complète de son économie sans contrainte en provenance de l'Union européenne, et Theresa May et sans doute un certain nombre de membres du Parti conservateur qui sont plus à même de chercher un compromis avec l'Union européenne. Et c'est la difficulté qu'il y a désormais à trouver ce compromis avec l'Union européenne qui reste, cohérente pour l'instant, unie, qui considère qu'il y a quatre grands principes dans l'Union européenne qui sont la parfaite mobilité des personnes, des biens, des services et des capitaux, et qu'on ne peut renoncer à aucune de ces libertés. Aucun de ces principes, alors que Madame Theresa May souhaiterait que on ait une liberté des mouvements de biens et de marchandises, et que pour les mouvements de capitaux, elle est prête à admettre que le passeport financier ne soit plus accordé aux banques britanniques. Donc on est dans un jeu, mais qui met Madame Theresa May dans une position hyper délicate, dans la mesure où une partie de son parti politique est contre elle parce qu'il préférait une sortie pure et dure de l'Union européenne, et de l'autre côté, l'Union européenne, je le dis encore, qui reste unis, mais on en reparlera peut-être, qui ne souhaite aucun compromis pour l'instant, mais c'est assez naturel parce qu'on n'est pas à la fin du processus de négociation.
Alors vous avez prononcé l'expression hard Brexit, hard Brexiteur, pour schématiser, ce sont ceux qui veulent, j'employais cette expression tout à l'heure, claquer la porte de l'Union européenne. Theresa May est d'accord pour la fermer, mais avec un peu plus de délicatesse, moins de brutalité. Est-ce que c'est cela le tableau, Emmanuel Sonny Cassien ?
C'est-à-dire qu'elle n'a pas trop le choix. Elle a été élue à la tête du gouvernement britannique pour présenter une solution cohérente de sortie. On parle de sortie ordonnée dans le jargon de cette négociation, c'est-à-dire faire en sorte que ça ne soit pas douloureux une fois que le pays sort de l'Union européenne. Donc il y a deux choses à faire. Prévoir cette sortie ordonnée en tant que telle avec un accord de sortie, et prévoir par ailleurs les dispositions d'un accord futur pour les relations à venir avec l'Union européenne, qui sont deux choses différentes mais interdépendantes, aussi bien dans le texte même du traité que dans les intérêts tout court du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Donc effectivement, Madame May est dans une situation très particulière, dans un pays qui est divisé sur l'Europe, comme beaucoup d'autres d'ailleurs de l'Union européenne, dans un parti qui est lui-même très divisé sur l'Europe, face à une opposition qui est elle aussi très divisée sur les questions européennes, avec par ailleurs une majorité de coalition qui est très instable et très difficile à tenir, puisque lorsqu'elle a provoqué de nouvelles élections, après avoir dit qu'elle n'en ferait pas, elle s'est vue accoquiner avec un parti assez difficile à gérer du Nord-Irlandais, le DUP, qui lui pose des problèmes sur le règlement de la question irlandaise dans le cadre des négociations. Donc c'est une situation vraiment difficile.
Qui est un des points d'achoppement, justement, de cet après-Brexit, de ce qui va se passer, de ce qui pourrait se passer.
Qui est un point d'achoppement du présent et du futur, parce que la question irlandaise est une des questions qui faisait partie des lignes rouges de la négociation aussi bien de l'Union européenne que du Royaume-Uni, et qui en fait dépend des relations futures qui va être conclue entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, mais qui doit démarrer dès maintenant. Donc c'est pour ça que la question irlandaise est importante au moment de l'accord tant de retrait que le futur accord sur les relations entre l'Union et le Royaume-Uni.
Alors, en ce qui concerne cet accord de retrait, les contours sont relativement circonscrits. On sait que le 29 mars prochain, a priori, la signature, le bon de sortie, entre guillemets, du Royaume-Uni doit être signée. Vous me faites des grands yeux, Emmanuel Sonicassia. Je sens que je dis une bêtise. Eh bien,
non,
corrigez-moi.
Non, vous ne dites pas une bêtise. C'est-à-dire que, dans l'idéal, oui, il faut qu'il y ait, comme vous le dites, ce bon de sortie. En fait, ce n'est pas vraiment un bon de sortie. Mais il y a quelque chose de cela, parce qu'effectivement, l'article 50 du traité...
Ça sera la ratification du texte par le Parlement britannique et le Parlement européen.
Oui, non, avant, il faut qu'il y ait un accord au sein du Conseil, puis après, une approbation du Parlement européen, pour que l'accord soit signé et ensuite, effectivement, ratifié par les parlements nationaux. Pourquoi je vous faisais de gros yeux, comme vous le dites, c'est parce qu'il pourrait ne pas y avoir d'accord du tout. Parce que, comme cela a déjà été dit, en réalité, au bout de 2 ans, après l'envoi de la lettre de notification, s'il n'y a pas encore eu d'accord signé, eh bien, le pays est réputé, enfin, est censé sortir de l'Union européenne. Plus exactement, les traités ne s'appliquent plus au pays qui a notifié son intention de se retirer 2 ans auparavant.
Ça veut dire que juridiquement, il est encore possible, sans repasser par la case référendum, par exemple, ce que certains appellent de leur voix de l'autre côté de la Manche, il est encore possible d'annuler les effets de ce Brexit ?
Absolument. Alors, tout le monde n'est pas d'accord, mais en réalité, oui. Le texte de l'article 50 ne l'empêche pas. Le texte de l'article 50 dit que l'État qui désire se retirer envoie une lettre de notification signifiant son intention de se retirer, pas signifiant son retrait. À partir du moment où on dit « intention de se retirer », on peut tout à fait envoyer une autre lettre de notification indiquant qu'on retire son intention de se retirer. Et ni le droit britannique ne l'empêche, ni le droit de l'Union européenne, ni le droit international pur, puisque la Convention de Genève dit qu'on peut revenir sur une intention de notification à tout moment, juste avant l'entrée en vigueur de l'accord.
Il n'en reste pas moins que c'est une hypothèse extrêmement peu probable,
oui.
Dans la mesure où déjà, de l'autre côté de la Manche, je le disais, on a beaucoup de mal à trouver une ligne commune. Theresa May a proposé son plan pour l'après-Brexit, le plan Deal Checkers, un plan qui lui a valu effectivement la défection de deux de ses ministres, Boris Johnson, David Davis, vous le disiez tout à l'heure. Jérôme Krehl, je me retourne vers vous. Vous y croyez à un simple courrier qui annulerait justement les effets du Brexit ?
Alors, j'y crois avec une probabilité faible, mais ça ne me paraît pas tout à fait invraisemblable. Souvenez-vous, au moment où David Cameron annonce qu'il va faire un référendum, il venait de recevoir des compromis en provenance de l'Union européenne qui allaient à l'encontre des principes même que j'évoquais tout à l'heure de l'Union européenne, à savoir que on allait accorder des exceptions supplémentaires au Royaume-Uni, États membres de l'Union européenne, en disant « acceptez nos conditions, notre compromis qui est bien sympathique et ne faites pas votre référendum ». Il a décidé de faire son référendum parce qu'il était tenu politiquement de le faire dans son pays. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, ayant cette information qu'Emmanuel vient de nous donner, peut-être les ministres l'avaient-ils déjà, peut-être pas, peut-être qu'en l'entendant, ils vont le savoir. Ils vont peut-être tous se rendre compte qu'en réalité, en février, comme d'habitude, comme ils l'ont fait il y a 3 ans, peut-être que c'est le moment de se mettre autour d'une table calmement, en se disant peut-être qu'on peut trouver un compromis. De toute façon, vous avez toujours, vous, Britanniques, été en dehors en étant dedans. Quel est votre intérêt ? Votre intérêt, c'est de rester en continuant d'avoir des conditions favorables aux échanges de marchandises, aux échanges principalement de services financiers, en limitant l'émigration. Ils ne sont pas membres de l'espace Schengen. Ils ont déjà, peu ou prou, réussi un peu à limiter les migrations. Ils n'ont pas les mêmes règles que nous. Pourquoi est-ce qu'on ne recommencerait pas cela ? C'est tout à fait possible. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, parce que je ne suis pas certain que ce soit bon pour le projet européen, mais on ne peut pas imaginer que ça ne se produira pas.
18h53 à Paris, vous écoutez le débat du jour sur RFI. Avec nos invités Emmanuel Sonnier-Cassia et Jérôme Krehl, on évoquait à l'instant ce plan de Checkers, le plan voulu par Theresa May pour l'après-Brexit, un plan qui a été retoqué par son propre camp, par l'Union européenne également. Est-ce que cette histoire, cette affaire autour du Brexit, elle n'est pas davantage une affaire de politique interne, de politique intérieure en tout cas britannique, qu'une affaire européenne ? Emmanuel Saunier-Castel.
C'est un piège de poser cette question à une juriste, de demander si le facteur politique vient supplanter le juridique. Oui, oui, bien sûr. Mais comme ça vient d'être rappelé très, très justement, tous les circonstances qui ont précédé le Brexit, c'est-à-dire effectivement, alors c'est pas l'Union européenne qui a initié la renégociation, c'est comme en 1975, ça s'était déjà passé en réalité, une demande de la part du gouvernement britannique d'une renégociation pour essayer d'arranger certains points qui posaient problème en interne, justement, afin de ensuite le faire ratifier populairement. Et en 1975, ça a marché. Le peuple a dit dans un référendum, finalement, oui, nous restons. Et en 2016, ça n'a pas fonctionné. Mais effectivement, comme vous l'avez très, très justement rappelé, l'accord qui avait été conclu en 2016, en février 2016, était considérablement favorable au Royaume-Uni. Et ça a été très mal vendu en fait par David Cameron, qui n'a pas du tout su expliquer à sa population combien elle y aurait gagné et combien l'Union européenne y aurait perdu. Ça m'aurait beaucoup fâché. Mais,
alors, ce que je voulais dire, sans vouloir vous piéger, oui. C'est que chacun, côté britannique, avance ses pions. Les travaillistes, qui étaient en congrès il y a quelques jours à Liverpool, avancent leurs pions. Jeremy Corbyn, leur leader, milite pour des élections. Il ne ferme pas complètement la porte à un éventuel nouveau référendum, même s'il ne l'appelle pas de ses voeux. Les conservateurs seront au Congrès, justement, à partir de ce week-end. On sait que Theresa May n'est pas en position de force. Est-ce qu'elle joue sa tête, à la tête, justement, sans mauvais jeu de mots, du gouvernement britannique, Jérôme Kriel ?
Alors moi, j'avais envie de revenir peut-être d'abord sur la question, des travaillistes, parce que les Britanniques sont très intéressants dans la mesure où, d'un côté, les conservateurs reprochent à l'Europe d'être insuffisamment libérale, ou trop libéral sur les mouvements de personnes. Et de l'autre côté, vous avez le parti travailliste, qui n'a quand même pas une passion pour l'Europe infinie.
Et Jeremy Corbyn était même plutôt classé au camp des europhobes, on peut le dire.
Mais en même temps, ça s'explique par une Europe qui est trop libérale à son sens. Donc en réalité, on est face à deux visions diamétralement opposées qu'on a dans le reste des pays européens de l'Europe. Une Europe qui est insuffisamment libérale, qui va brider l'activité économique, la mobilité du capital éventuellement, pas trop, mais peut-être la mobilité des personnes selon certains. Et puis d'autres qui considèrent qu'il y a beaucoup trop d'intervention de l'Europe dans leur propre politique et qui souhaiteraient disposer de leur propre politique budgétaire pour faire face à des chocs. Donc moi, je trouve ça très intéressant et je comprends mieux les difficultés que rencontre le Parti travailliste à avoir une position claire sur le Brexit. Vous m'interrogiez sur Theresa May lors du congrès prochain. Ni l'un ni l'autre n'avons une boule de cristal. Ce que moi j'ai envie de dire, c'est que Theresa May a fait face à des difficultés sans nom depuis qu'elle est devenue Premier ministre, et je crois qu'elle a l'intention de rester au pouvoir. Et je pense qu'elle fera tout pour rester au pouvoir et ne pas être évincée par une partie même majoritaire de son parti politique. Donc je mettrai pas forcément un billet, mais je parierai qu'elle va rester en place.
Alors sans boule de cristal, Emmanuel Saunier-Castia, que se passe est-il si, à la date butoir, à cette fameuse date du 29 mars prochain, il n'y a pas d'accord ? Qu'est-ce qui se passe ?
Bah, s'il n'y a pas d'accord, le Royaume-Uni devient, en l'espace de quelques minutes, un État tiers de l'Union européenne.
Et quelques minutes plus tard ?
Et quelques minutes plus tard, les barrières ressurgissent, c'est-à-dire les frontières, aussi bien pour les personnes que pour les services, que pour les capitaux et que pour les marchandises. Ce qui veut dire, notamment pour les marchandises, eh bien que les droits de douane se multiplient par... Alors là, l'économiste sera mieux que moi à dire par combien, mais selon les types de marchandises, par 20, par 30, par 100, par 200, selon les types de produits. Et la liberté de circulation des personnes, quand bien même, effectivement, le Royaume-Uni ne fasse pas partie de l'espace Schengen, sera limitée.
Ça, c'est théoriquement ce qui peut se passer. En même temps, à Bruxelles, aujourd'hui encore, on rappelle que dans certains domaines, comme le transport aérien, pour ne citer que celui-ci, il faudra bien continuer à s'entendre avec le Royaume-Uni.
On en parlait juste avant d'être avec vous dans cette émission. Et je disais que je n'avais pas imaginé qu'effectivement l'atterrissage des avions était un enjeu du Brexit, mais c'en est un. C'est contractuellement très important de s'assurer que les normes sont partagées. Et à partir du moment où on ne partage plus rien, mais il faut quand même s'entendre sur des normes. énorme. Moi, j'avais envie de rebondir, non pas forcément sur la question des droits de douane, mais sur,
il nous reste quelques secondes.
Sur la désorganisation en fait des structures productives. On est dans une mondialisation assez importante qui fait qu'un certain nombre de biens qui sont assemblés au Royaume-Uni ont des biens intermédiaires qui viennent d'ailleurs. Et si jamais on a cette hard Brexit, ça va être très coûteux pour l'Union européenne.
On n'en dira pas davantage ce soir. Merci Jérôme Krill, économiste, directeur du département des études à l'OFCE. Merci Emmanuel Saunier-Cassia. Je rappelle que vous êtes spécialiste du droit de l'Union européenne.